Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Priorité Santé. En matière de santé, pas besoin de faire de grands discours quand certains chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, au Tchad, 860 femmes sur 100 000 meurent pendant leur grossesse. Une proportion alarmante, la mortalité infantile est également très importante avec 72 décès pour 1000 naissances. Alors comment expliquer une telle situation? Qu'est-ce qui est entrepris pour faire baisser la mortalité maternelle et infantile? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans la région du Kanem. C'est au nord de la capitale N'Djamena, une région sahélienne, difficile d'accès, puisque l'absence de routes bitumées rend les trajets aussi longs que laborieux. La santé maternelle et infantile au Tchad, c'est un reportage d'Igor Strauss, réalisé en partenariat avec le fonds français Muskoka.
Je m'appelle Babaye Abakar.
J'ai 35
ans, 12 enfants.
Et à quel âge vous vous êtes marié et à quel âge vous avez eu votre premier enfant?
Elle s'est mariée à l'âge de 13 ans, 14 ans, elle a eu un enfant. À cette époque, il n'y a pas de sensibilisation. Les gens ne parlent pas sur le mariage précoce. C'est quelque chose de traditionnel, de coutumier. Mais aujourd'hui, quant à lui, il ne peut pas marier son enfant à son âge qu'ils sont mariés.
Si vous aviez pu choisir, à quel âge est-ce que vous auriez aimé vous marier et combien d'enfants est-ce que vous auriez aimé avoir?
Concernant le mariage, elle préfère se marier à partir de 19 ans, 20 ans. Mais les enfants, elle dit, c'est selon, grâce à Dieu, Dieu qui connaît 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, 2 enfants, 3 enfants, ça c'est de Dieu. Mais si elle veut se marier à l'âge de 19 ans à 20 ans.
Qu'est-ce que vous pensez de la condition des femmes ici dans la région du Kanem?
Les femmes du Kanem ont beaucoup de difficultés. Primo, elles sont tous analphabètes. Dans 100 femmes, il y a une seule femme qui a quand même qui a eu l'alphabétisation. Donc cela veut dire qu'elles sont analphabètes. Une femme analphabète ne sait pas comment prendre en charge même ses enfants. Supposons, les femmes qui ont des enfants malnutris, s'ils viennent au centre santé pour prendre des plans pinotes, au retour, les enfants sont affamés. Deux, ils ne connaissent même pas préparer la bouillie pour donner à leurs enfants. Donc il n'y a pas de travail que les femmes font pour quand même amener des revenus à la maison. Il n'y a rien. Les femmes du Kanem sont toujours souffrantes.
Vous, vous avez eu des enfants malnutris?
Elle a eu des enfants malnutris. Elle était hospitalisée même au niveau de l'UNT. Donc après...
Donc l'unité nutritionnelle thérapeutique.
Oui, à l'UNT. Donc à l'UNT, elle a appris beaucoup de... Les gens ont sensibilisé beaucoup de comment préparer la bouillie. Elle a appris beaucoup de choses après ça. Donc elle s'est un peu améliorée et elle a appris des remèdes pour qu'elle n'accouche pas comme elle est rapprochée là. Elle a appris des remèdes pour arrêter l'accouchement.
Merci.
Merci. C'est quoi?
Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Les mariages précoces sont officiellement interdits au Tchad depuis 2015 et pourtant de nombreuses familles continuent de donner leurs filles en mariage et ce dès un très jeune âge.
Oui, les chiffres sont assez effrayants. Une fille sur trois est mariée avant l'âge de 15 ans. Près de 70% des filles de moins de 18 ans sont déjà mariées. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que la planification familiale est quasiment inexistante au Tchad. Seuls 4,8% des filles y ont accès dans le pays, à peine 2% dans la région du Kanem. Du coup, de très jeunes filles se retrouvent avec des nouveau-nés alors qu'elles sont elles-mêmes des enfants.
Alors, quelles sont les conséquences de ces grossesses précoces?
Bien, elles sont nombreuses, mais l'une d'elles, c'est le très grand nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition, souvent parce que les mères sont incapables, en raison de leur jeune âge, de prendre soin de leur bébé.
Alors justement, Igor, vous êtes rendu à l'UNT de Mao, UNT comme unité nutritionnelle thérapeutique. Elle est située dans l'hôpital régional du Kanem. C'est là que sont pris en charge les enfants malnutris. Sylvain Majirom est l'infirmier superviseur de l'UNT.
Il arrive des fois où les mères qui arrivent, ils n'acceptent pas de rester à l'UNT. Pour des raisons de coutume, il faut consulter les parents et tout ça d'abord. Tout de suite encore. Si vous étiez venu le matin, vous allez peut-être assister à la scène. Il y a un enfant qu'on l'a référé de l'hôpital. Il est arrivé. Donc on a dit, voilà, tu es arrivé à l'UNT. La prise en charge est gratuite. Nous, on te donne les médicaments, on te donne le savon, on te donne tout ce qui est nécessaire pour la prise en charge de ton enfant. Mais le problème, c'est qu'il y a des enfants qui ne consomment pas. Mais si un enfant ne consomme pas, nous sommes obligés de passer par la sonde nasogastrique pour l'alimenter. Et c'est ça notre arme aussi, c'est ça le soin aussi qu'on fait sur les enfants. La mère a dit, elle accepte, mais son mari est au marché, qu'elle n'a qu'à la consulter d'abord. Une fois déjà le consulté, le marié est arrivé ici, il a arraché le carnet avec moi, il dit, son enfant il n'a pas besoin qu'on le mette sur la sonde nasogastrique. Donc,
Il a arraché le carnet
et puis il est allé. C'était ce matin encore.
Mais qu'est-ce qu'ils craignent selon vous? Parce que tout est gratuit, c'est pour le bien de leur enfant. Pourquoi tant de refus?
Peut-être c'est de l'ignorance, on ne sait pas. Mais on a certaines mères qui témoignent. Quand certaines mères refusent qu'on lui pose la sonde, une mère peut-être peut revenir, prendre son enfant. Voilà mon enfant là. Quand j'étais arrivé, mon enfant était tellement malade. Mais avec le caoutchouc, là, on appelle communément caoutchouc, la sonde nasogastrique. Donc c'est avec ça là qu'on a nourri mon enfant, voilà le voilà aujourd'hui. Et avec ces témoignages comme ça, certains mères acceptent qu'on pose la sonde, mais d'autres aussi refusent, ils disent que non. Comment on peut mettre un caoutchouc dans le ventre de son enfant? Ça va le tuer, des trucs comme ça. Et ils nous rendent vraiment la tâche difficile, mais comme c'est notre travail, nous sommes obligés de le faire, parce qu'il n'y a pas 36 solutions.
De façon générale, quelles sont les causes de la malnutrition ici au Tchad et dans la région du Kenem?
Bon, les causes sont multiples. D'abord, moi, je peux dire que c'est quelquefois c'est l'ignorance aussi. Les gens ne connaissent pas quand l'enfant est malade, il faut l'amener le plus vite que possible à l'hôpital et tout ça. Certaines causes sont aussi les mères qui sont immatures, les petites filles qui font des enfants, ils n'arrivent pas à les prendre en charge normalement. On conseille aussi les jeunes mères, problème d'allaitement. Comme ils sont immatures, ils ne connaissent même pas pour placer l'enfant au sein. Donc ça pose des problèmes. Quelquefois, elle dort la nuit, elle n'arrive même pas à allaiter son enfant. Donc là, des fois, il faut la grand-mère à côté, tout ça pour s'occuper de l'enfant. Donc c'est ce problème qu'on a entendu. Puis associé à ça, il y a les pratiques néfastes aussi qui sont là. Ils sont là, l'enfant est malade. Au lieu de l'amener à l'hôpital, ils préfèrent plutôt aller chez les tradis praticiens qui préfèrent escarifier les enfants, enlever les dents, couper la luette.
Mais pourquoi enlever les dents? Je ne comprends pas.
Bon, c'est dans la tradition, ils disent que c'est les premières dents sont des dents qui sont mauvaises, donc il faut enlever. Et la luette, ils disent que c'est ça qui fait vomir l'enfant. Il va brûler l'anus. Ils disent que la diarrhée que l'enfant fait, c'est par l'anus. Donc quand tu mets le feu, ça va tuer les germes qui est dans le ventre de l'enfant là. Donc c'est comme ça qu'il faut. Alors passer par la scarification, ablation de la luette, extraction des dents, tout ça quand l'enfant est arrivé, c'était une phase terminale. Donc nous on ne fait que courir. Et c'est des cas comme ça qu'on est en train de gérer. Même la semaine passée, un enfant a été décédé. Suite à l'escarification, l'enfant était... Ensuite de l'escarification, l'enfant était tombé dans l'anémie. Et l'enfant a fait 4 mois à la maison. Quand ils ont amené, on est resté sur l'enfant 24 sur 24, jusqu'à on a vu, même on a essayé de le transfuser, mais c'était tard. Donc l'enfant a rendu là. Donc c'est ça.
Ça, donc, c'est fréquent, ces cas-là?
C'est fréquent, ces cas sont fréquents. Donc c'est le grand problème qu'on est en train de combattre.
Bonjour.
Ça va?
Ça va bien. Quel âge vous avez? Et combien d'enfants vous avez?
On a la mort de ça ici, il y a aux autres. Elle a 19 ans, elle a 3 enfants.
Il a quel âge le premier enfant?
Son premier enfant a 4 ans.
Ah, donc vous avez eu le premier enfant à 15 ans, vous?
Ah, t'es que hangro.
Et vous étiez contente de vous marier à 15 ans?
C'est seulement comme ce mariage forcé, elle ne peut pas contredire les parents. Pour cela que donc elle est restée, mais elle n'est pas d'accord. Elle préfère qu'elle fasse l'école, elle continue son étude. Quoi. C'est seulement les parents ont forcé de faire.
Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à votre petit garçon? Pourquoi vous êtes là avec lui aujourd'hui?
Elle est là ici pour son enfant, qui fait diarrhée, vomissement, et il n'a pas d'appétit, il ne peut pas téter quoi. Pour cela qu'elle est là ici.
Et il a quel âge?
L'enfant a 7 mois.
Et ça, donc ça arrivait subitement?
Elle a constaté qu'avant, son enfant était bien, très bien, le jour comme la nuit, et puis ça régresse, ça diminue, et il ne peut pas téter aujourd'hui. Si tête le jour, il ne peut pas téter la nuit, pour cela, jusqu'à 15 jours, donc il a refusé carrément. Bon, comme elle dit, son enfant, comme il a refusé de téter là, donc pour cela qu'elle est en train de donner la bouillie et il n'a rien changé, le vomissement ça continue, le diarrhée ça continue. Donc ils ont commencé à faire l'autre là, partir chez traduit praticien.
Et alors, qu'est-ce qu'il a fait le traduit praticien?
Et quand ils sont partis chez le traduit praticien, le traduit praticien a regardé la bouche, il a regardé tout ça. Il a coupé premièrement la liette, il a mis ici au front. Après ça, il a enlevé les 4 dents. Donc c'est ça.
Et pourquoi il a fait ça?
Ah non, il y a des gens qui sont très bien.
Quand l'enfant a les dents et l'autre la liette, là, donc l'enfant ne peut pas prendre l'autre la peau, c'est-à-dire il ne prend pas le poids, il n'est pas toujours à l'aise avec le vomissement. Il fait fièvre même quand il a coupé la liette, l'autre les dents. Aux autres enfants même, il a fait ça. Quand il a fait ça, ses enfants même, ils ont trouvé la santé. Pour cela qu'elle est partie pour faire ça aussi. C'est pour la prévention quoi. Quand ils font ça, ça ne vient pas la malnutrition. Pour cela qu'ils ont fait ça aux 10 enfants. Et puis, pour cet enfant, ils ont un peu retardé, là, donc il est tombé dans la malnutrition.
Igor Strauss, on se rend compte qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire.
Oui, et c'est ce que fait justement l'association des jeunes leaders de Mao. Alors d'ailleurs, j'ai assisté à un débat organisé par l'association sur la santé sexuelle et reproductive au CLAC. Le CLAC, c'est le centre de lecture et d'animation culturelle de Mao. Mais ce jour-là, eh bien, il n'y avait que 3 filles sur la 50aine de participants.
Monsieur le directeur du CLAC, je voudrais commencer avec l'exposé qui est intitulé « La santé et la reproduction des adolescents et dividendes démographiques ».
Jamal.
Oui, moi c'est Neka Onadida Tolum Victorine. J'ai 20 ans.
Alors, je parlais tout à l'heure avec votre collègue, le leader des jeunes, des mariages précoces et des grossesses précoces. Est-ce que ça, c'est un gros problème ici à Mao?
Oui, je le réponds en haute voix, oui. C'est vraiment un gros problème à Mao. Parce que ici, les parents nous disent qu'il ne faut pas laisser la fille grandir. Parce qu'en grandissant, elle peut contacter une grossesse hors mariage. C'est pour cela qu'ils marient leur fille à bas âge. Pourtant, pour eux, c'est une bonne chose pour la fille. Même pour la fille, ils sont en train de faire du mal à la fille. Parce que une fille qui se marie à l'âge de 14-13 ans, veut ou veut pas, après l'accouchement, elle aura une maladie appelée communément fistule. Et cette maladie fait vraiment des rages ici à Mao.
Il y a beaucoup de fistules ici, de femmes fistuleuses ici?
Oui, il y en a. Ici, c'est fréquent. Si nous le voyons vraiment, c'est fréquent. On n'arrive pas à comprendre les parents. Ils veulent absolument que leur fille se marie avant d'être engrossée. Donc c'est ça seulement leur problème.
Donc en fait, le problème, c'est la tradition.
C'est la tradition, oui, c'est ça.
Alors comment on peut faire pour faire comprendre, malgré la tradition, qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes?
Ah, là j'ai dit c'est un peu difficile, parce qu'on ne peut pas abandonner notre tradition, mais on peut au moins convaincre les parents, aller les expliquer, il faut bien éduquer la fille et elle s'en sortira, elle gardera sa virginité et jusqu'à atteindre le jour de son mariage avant de contracter la grossesse.
Vous avez des amis qui ont fui, qui ont dû quitter l'école pour être mariée précocement?
Oui, j'ai une copine, elle a abandonné l'école. Finalement, elle est mariée, maintenant elle a deux enfants.
Et ça vous fait quoi de voir vos amis comme ça, mariés de force?
Vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Au début, quand ses parents ont commencé à la forcer, elle venait même rester chez nous. Et quand ses parents ont vu qu'elle était vraiment collée à moi, ses parents aussi ont mis rigueur sur moi de ne pas aller chez elle et de ne pas fréquenter aussi leur fille. Donc moi aussi, j'étais obligée de me retirer. Et ce moment qu'elle était mariée, je me suis renseignée, j'ai trouvé chez elle et puis maintenant, on est ensemble.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et de façon générale, que pensent les femmes de cette situation?
Bien, j'ai demandé à des femmes de tous âges ce qu'elles pensaient des mariages et des grossesses précoces. Toutes étaient contre, signe qu'elles ne sont pas écoutées et qu'on devrait prendre leur avis en compte.
Alors comment expliquer que les mariages précoces perdurent malgré leur interdiction? Abdelkirim Bodouter est le point focal de la santé de la reproduction dans la région du Kanem. Point focal, c'est comme ça que se définit son niveau de responsabilité.
Il y a une loi qui a été promulguée pour pouvoir interdire le mariage des mineurs avant 18 ans. Mais il y a quand même le poids de la tradition qui commence à faire de façon clandestine ce genre de mariage et avec toutes les conséquences qui y sont liées. Donc nous allons toujours continuer de mener le combat en impliquant davantage les chefs traditionnels, les chefs religieux, pour que vraiment les mariages avant 18 ans ne se réalisent pas du tout. Alors nous avons aussi un autre problème par rapport aux accouchements assistés. Malgré les sensibilisations, au niveau de la région du Kanem, la préférence est d'accoucher à la maison avec une accoucheuse traditionnelle que plutôt de venir au niveau des centres de santé. Donc seuls les cas compliqués sont amenés au niveau des centres de santé. Et vous imaginez toutes les suites avec un plateau technique qui est insuffisant, avec également une prise en charge inadéquate, on aurait toujours des difficultés de pouvoir sauver les vies des femmes et aussi les vies des enfants qu'elles portent. Je voudrais insister là-dessus parce qu'au niveau de la grossesse, les femmes sont soumises à une diète particulière. Pour ne pas avoir un gros bébé qui va rendre compliqué l'accouchement, il est demandé à la femme en grossesse de moins s'alimenter pendant toute la grossesse. Ce qui rend vraiment difficile l'accouchement, puisque l'accouchement nécessite vraiment de l'énergie. La femme qui ne s'alimente pas durant toute sa grossesse n'a pas assez de force. Donc ça rend très compliqué l'accouchement. Et l'enfant qui va naître avec un petit poids, un poids généralement inférieur à 2,5 kg. Il y a aussi une autre pratique qui consiste à empêcher aux femmes de dormir durant les journées. Les gens pensent que quand la femme dort pendant la grossesse, elle va avoir une hypertension, une sorte d'hypertension, elle va avoir le corps qui va être enflé, des œdèmes, etc. Raison pour laquelle on empêche à la femme de dormir pendant toute la grossesse. Donc ce sont des pratiques qui sont contre avec les recommandations de l'OMS. Donc toutes ces pratiques concourent à l'aggravation de la situation de la santé de la mère à l'enfant.
Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes, juste après le Flash Info pour la suite de ce reportage sur la santé maternelle et infantile au Tchad, avec vous Igor Strauss.
Santé. Caroline Paré.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de Priorité Santé. Dans quelques instants, nous prendrons des nouvelles des retournés, ces Tchadiens qui ont fui la guerre en République centrafricaine en 2014 et qui survivent tant bien que mal dans le camp de Gaoui, c'est à 15 km de N'Djamena. Nous parlerons également des fonctionnaires de la rue des 40 mètres. Triste histoire d'esclavage moderne. Mais d'abord, on retourne dans une oasis près de Mao. C'est le chef-lieu de la région du Kanem, au nord de la capitale, pour la suite du reportage d'Igor Strauss sur la santé maternelle et infantile au Tchad.
Ça fait 9 ans que je suis en train de travailler dans le wadi.
Ça fait 9 ans.
Parfois, elles sont en grossesse.
Parfois,
elles sont des enfants au sein. Après 20 jours de l'accouchement, ils vont se mettre au wadi pour directement pour travailler. Ils sont au nombre de 15 femmes qui travaillent dans cette wadi. Ils ont des enfants, ils ont des maris aussi, mais les maris n'ont pas de capacité. Parfois ils sont là, parfois ils ne sont pas là, ils vont aller chercher ailleurs. Donc c'est pour cela qu'ils étaient mis au wadi pour travailler.
On se met à l'ombre ? C'est chaud. Alors, je vais vous laisser vous présenter, madame.
Je m'appelle Babaye Abakar, présidente du groupement Hay Hayram.
Ça fait donc 9 ans que vous cultivez ici un jardin. Comment est né le projet ?
Ça fait 15 ans qu'on a créé ce groupement pour travailler dans le wadi. Au moment où ils ont créé cette ONG, ils ont commencé à faire la sensibilisation dans les villages, dans les quartiers, envers les femmes. Au début, ils ont commencé par la sensibilisation sanitaire dans le cadre de SIDA. Les femmes qui vont sensibiliser les femmes d'aller faire le dépistage. Les femmes qui ont le SIDA allaient quand même prendre leurs médicaments. Après, ils vont quand même sensibiliser les femmes en grossesse pour aller faire la CPN. C'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler. Après 2 ans, ils étaient restés à bras croisés. Bon, eux-mêmes, ils étaient réunis. Ils ont passé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si c'est comme ça, ils ont fait leur dossier pour aller déposer à OND, c'est l'Office national de développement.
Il
dit, après, avec l'Office national, ils ont donné un projet de plantation de plantes. Donc dans un wadi, ils sont partis quand même amener des bousses de vaches, des bousses des ânes. Donc c'est comme ça, ils ont allé amener des calcaires, ils ont fait mélanger, ils ont tapé, ce sont des femmes enceintes, certaines femmes, ils ont des enfants enceintes. C'est comme ça, ils ont quand même planté 8000 plantes dans des pots.
Et alors vous cultivez quoi aujourd'hui dans ce jardin, dans ce wadi ?
Il dit, à chaque moment, il y a des choses à planter. Comme on est dans la saison pluviale, au début, ils ont planté des oignons, de l'ail, ils ont déjà récolté, mais maintenant, on est dans le moment pluvial là. Ils vont quand même semer, ils vont semer le gombo, ils vont semer l'aubergine. C'est ça, c'est le moment de faire ces choses-là. Dans chaque saison, il y a des choses à planter.
Mais alors, comment vous est venue l'idée de cultiver ce jardin? Et est-ce que ça répondait à un besoin particulier?
C'est très important pour eux. Ça a des revenus pour eux parce que si on commence à planter les dates qu'on est là même, maintenant, eux, ils ont planté, mais s'ils ont donné à leurs enfants, ils vont manger. S'ils l'amènent à la maison, ils vont manger. S'ils ont planté les gombo ou autres comme ça, si c'est mûr, ils vont amener au marché. Certains vont manger, certains vont amener au marché pour quand même trouver un peu de revenus. C'est très important. Ils disent, ils ne peuvent pas laisser rester, mais ça a des revenus. C'est important pour eux. Les conditions sont très bien améliorées par rapport à avant. Avant, c'est très dégradé parce qu'ils ne sont pas bien habillés, ils ne marchent pas bien, même depuis qu'ils sont là dans le wadi, elles sont contentes, elles marchent très bien. Dans cette région-là, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de pluie. Les hommes fuient. Oui. Maintenant, c'est pour cela que la femme qui a compris qu'elle a des portions de terre dans le wadi, et même ils vont descendre dans le wadi pour quand même travailler et aider les hommes. Oui. Il y a certains hommes, s'ils partent là, ils ne passent même pas derrière. Un homme qui ne pense pas derrière, mieux que la femme même descend dans le wadi pour travailler et maintient son mari ici. Oui, c'est ça qu'elle a dit.
Grâce au maraîchage dans le Wadi, les femmes maintiennent donc leur mari à leur côté.
Eh oui, non seulement ces jardins leur procurent des petits revenus et à manger, mais en plus, elles font travailler les hommes qui n'ont plus besoin de tenter l'aventure ailleurs, comme on dit, en Afrique ou en Europe, dans des conditions dramatiques que nous connaissons.
Alors la région du Kanem, c'est une région pauvre avec un taux de chômage élevé. Au niveau du système de soins, ça se traduit par un manque de moyens et d'infrastructures.
Oui, et comme c'est une région très vaste, certains habitants des villages reculés se retrouvent loin des centres de santé qui sont peu nombreux et mal équipés. Seuls 20 centres de santé proposent la PTME, par exemple, la prévention de la transmission mère-enfant. Autre conséquence, la CPN, la consultation prénatale, est très mal suivie car les femmes ne peuvent pas parcourir les kilomètres qui les séparent des centres de santé. Donc, sur les 4 consultations qui sont préconisées normalement, les femmes n'en suivent généralement qu'une. Du coup, certains villageois s'organisent entre eux. On part à une quinzaine de kilomètres de Mao, en plein désert. Je vous laisse vous présenter.
Monsieur Mohamed Abakar Sedik, responsable régional de la nutrition à la délégation santé régionale du Kanem. Ici, on se trouve dans la zone de responsabilité de Tarfé, à 10 km de centre santé de Tarfé, dans un village qui s'appelle Korei. Vous voyez, l'éloignement des centres de santé, nous n'avions pas des hôpitaux qui sont modernes. Donc, il y a trop de problèmes. On a seulement que le seul hôpital régional de Mao qui intervient dans le cadre des blocs. Sinon, nous avions 5 districts. Dans tous ces 5 districts, il n'y a pas d'hôpitaux de district. À l'accouchement, s'il y a des complications, on va de 200 km, on amène à l'hôpital de Mao.
200 km à parcourir.
Même à 200 km à parcourir. C'est pour cela que j'ai dit, nous, ici, si on n'a pas construit les hôpitaux de district, on ne peut pas améliorer la santé de reproduction.
Pourquoi vous nous avez emmenés ici?
Donc, je vous ai amené pour montrer que dans un village, on a des charrettes. Il est le chauffeur des charrettes. S'il y a des malades dans la zone de responsabilité, il peut aller prendre ces malades-là pour déposer au niveau de son santé.
Donc là, la petite charrette qui est sous nos yeux, donc une charrette typique en bois, avec des pneus de voiture, qui est recouverte quand même pour protéger du soleil, oui. Et avec un petit matelas à l'intérieur, oui. Ça c'est pour les évacuations sanitaires, c'est ça?
Oui, ça c'est pour les évacuations sanitaires. Au niveau des villages, on dépose au niveau de sans santé.
Vous me le présentez, le vieux? Il est là. Salam alaikum.
Alaikum salam. Machallah.
Ça va, monsieur?
Ça va très bien.
Machallah. Abakar Mohamed Kosei.
Je m'appelle Abakar Mohamed Kosei.
Tous
les mondes étaient concertés. Tout le monde nommé comme responsable de cette charrette. C'est comme ça qu'en déguise de tous les mondes, ils ont tenu une réunion du comité de santé, comité de gestion. Donc ils m'ont nommé comme je suis le responsable de cette charrette. Ça fait 2 ans que je détiens cette charrette pour transporter les malades.
Alors, comment ils faisaient les gens avant, quand vous n'aviez pas la charrette? Comment ça se passait ici dans le village?
Avant les charrettes, les gens quand même vont aller louer des véhicules à 30 000, 40 000 francs à Mao pour venir transporter nos malades. Et depuis qu'on a trouvé ces charrettes-là, on ne dépense que 250 francs. Donc, c'est ça la différence.
Et comment est-ce qu'elle a évolué la santé maternelle et infantile?
Ces dernières années, les gens sont devenus nombreux, les maladies sont devenues nombreuses, les cas de décès aussi sont devenus nombreux. Donc, je ne peux pas expliquer ça. Sinon, entre-temps, il n'y a rien. Ils n'écoutent pas. Au moment où ils sont jeunes, ils n'écoutent pas la mort.
Et vous, monsieur, personnellement, comment ça va, vos enfants, votre femme? Est-ce que vous avez eu des enfants malnutris? Est-ce que votre femme a eu des complications lors de ses accouchements? Comment ça s'est passé?
Sa femme est devenue malade. Même elle a eu des enfants qui sont malades, ils sont décédés aussi. Ils sont devenus malnutris.
Oui.
Quand ils sont petits, il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de malnutris. Même il dit qu'il n'y a pas de maladies.
Merci, monsieur. Chokran.
Ah, merci. Merci. Ah, merci. Chokran.
Vous écoutez Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la santé maternelle et infantile au Tchad. Après la région du Kanem, nous voici de retour à N'Djamena. Alors elles sont jeunes, voire très jeunes. Certaines d'entre elles ont à peine 11 ans. Elles sont généralement analphabètes. Elles ont quitté leur village pour trouver du travail dans la capitale. Mais elles ignorent tout des dangers de la ville. On les appelle les fonctionnaires de la rue 40 mètres. Ce sont les nouvelles esclaves des temps modernes.
Je réponds au nom de Moussaï Léonce. C'est depuis 2012 que je fais des va-et-vient N'Djamena et dans le village.
Et pourquoi tu es venu à N'Djamena alors?
Je suis venu pour chercher de l'argent pour payer certaines choses qui vont m'avantager, quoi. Je veux payer des cahiers, des tenues, des habits, tout ça.
Alors tu fais quoi comme travail du coup?
Les travaux domestiques, quoi. Je prépare à manger, je lave des habits, tout ça.
Moi, c'est Jim Thomas et Dimas Togarché, le leader de ces jeunes fonctionnaires de la rue des 40. Au village, généralement, c'est un peu difficile pour certains. Les conditions de vie sont très difficiles. Certains qui arrivent même à labourer, autres avec le conflit agriculteur et éleveur, ils labourent beaucoup, mais vers la fin, ils voient leurs champs décimés. Et la pauvreté aidante aussi, ces jeunes viennent pour chercher de quoi à se maintenir au lieu de moisir au village. Donc de nos jours, ils sont là plein à N'Djamena et bien même dans d'autres villes. Ils arrivent sans être préparés et c'est vraiment difficile leur séjour.
Moi, je m'appelle Dikolo Moulin. Je travaille au centre de support en santé internationale. Au départ, quand ces jeunes étaient arrivés en ville, à N'Djamena, ils vivaient dans les quartiers périphériques. Et les employeurs chez qui ils travaillaient habitaient presque tous autour de la rue de 40 mètres. Une rue de N'Djamena située beaucoup plus dans le quartier nord et ils habitaient plus dans le quartier sud. Et le matin, très tôt, autour de 4h30, 5h, ils quittaient donc les quartiers périphériques et marchaient pour aller, n'est-ce pas, vers le lieu de travail qui est situé autour de la rue de 40 mètres. Et maintenant, les gens, la population qui passe et les voit disent que ce sont les fonctionnaires de la rue de 40. Et c'est là que l'appellation est partie. En fait, c'était péjoratif au départ. Et on a cherché vraiment à changer cela. Beaucoup ont même critiqué ce terme, mais bon, finalement, c'est devenu un terme générique et c'est grâce à ça qu'on les connaît.
Bon, pour les filles, les principaux dangers, c'est qu'ils n'ont pas de moyens, assez de moyens pour avoir des maisons où mettre la tête. Donc, ils sont obligés de se regrouper 5, 6, 7, 8, quelquefois même à 10 pour louer une petite chambrette dans des bidonvilles où ils sont là entachés. Et les garçons aussi qui arrivent, ils viennent, ils habitent aussi au milieu de ces filles et c'est le désordre tout à fait. Les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles, avec les VIH, SIDA et consorts. Et donc, il y a plein de dangers là pour les jeunes filles. Et surtout qu'elles n'ont pas la force de dire non. Ces jeunes garçons, quelquefois, les forcent pour avoir des rapports sexuels avec eux. Et c'est encore le pire pour les jeunes qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas encore le milieu. Malheur à eux, s'ils sont accueillis par ces garçons, alors c'est la catastrophe, quoi.
Et comment ça se passe au travail chez tes employeurs?
Le travail, tu commences très tôt le matin jusqu'à 6. Dès qu'eux, ils ne dorment pas là, toi aussi tu ne dors pas. On t'envoie jusqu'à ce qu'on t'a montré pour que tu fasses là. Si tu ne finis pas, tu ne peux pas se reposer aussi. Arrivé à la fin du mois là, si tu demandes ton argent là, on va te dire que c'est à eux de donner l'argent. Toi, tu n'as même pas le droit de demander. Si on te donne, on te donne. Si on ne te donne pas, tu ne peux pas demander. Et si on te donne parfois, si c'est 15 000, 20 000 francs, on va te donner 2 500 ou 5 000.
C'est-à-dire qu'ils ne vous donnent pas la somme promise?
Oui, la somme qu'on fait là, nous, eux, ils ne nous donnent pas. C'est un peu compliqué. Pour travailler là, tu vas bien faire, mais pour donner l'argent là, c'est un peu compliqué. Pour trouver à manger même, chez les certains là, c'est un peu compliqué. On te maltraite. On va t'exploiter jusqu'à que tu fatigues même. Tu sens mal partout, tu ne peux pas bien dormir même.
C'est une sorte d'esclavage de temps moderne. Parce que c'est vrai, beaucoup disent qu'ils gagnent 15 000 francs par mois. Mais en réalité, lorsque le mois finit et qu'on doit le payer, ce n'est pas vraiment 15 000 qu'on le donne. On prend tous les prétextes possibles pour retirer encore de l'argent sur ces 15 000 francs-là. Quand on ne veut pas les payer, par exemple, les employés ne veulent pas les payer, ils les accusent de vol, de perdre des choses dans la maison. Et voilà, au lieu de payer 15 000, parfois, il y en a qui se retrouvent même avec 10 000, parfois avec moins que ça même. Donc et ils sont vraiment maltraités. En plus de ne pas les payer, n'est-ce pas, normalement, en plus de ne pas les respecter, parfois, surtout les jeunes filles sont parfois même violées, soit par les patrons eux-mêmes ou bien par leurs enfants. Il y a eu beaucoup de cas comme ça, de viols, qui, il y en a qui sont infectés suite à ces viols-là.
Infectés par le VIH ou
oui, par le VIH, pas des maladies sexuellement transmissibles.
Et est-ce qu'ils essayent d'abuser des jeunes filles, de toi ou de tes copines?
De moi, là, pas encore, mais de mes copines, là, c'est... j'ai entendu parler et puis il y en a beaucoup partout.
Même si leur fils qui fait quelque chose, on te dit c'est toi qui fais. Toi, tu n'as aucun droit de nier, non, c'est pas moi. Et si tu as osé de dire c'est pas toi, on te fait du mal, on te tue même parfois, on te cache dans des douches, par exemple, on te jette même sur la route, c'est comme ça, on te cache même. Et les parents te cherchent même, ils n'en trouvent pas la trace où donc tu es.
Elles sont menacées, elles ne peuvent même pas dénoncer cela parce qu'on les menace de mort. Si jamais tu dénonces, tu vas, on va te tuer. Et comme il y en a qui sont parfois même qui ont perdu la vie comme ça et qu'on n'a pas retrouvé les traces, les parents les ont cherchés en vain, les ont retrouvés parce que quand les employés, sous la torture par exemple de leurs employés, quand elles décèdent, on jette leur corps parfois au fleuve. C'est quelques temps après qu'on retrouve le corps au fleuve des choses. Donc c'est des cas qui existent, des cas de maltraitance qui existent. Mais comme c'est des, les employés sont parfois des gens qui sont tout puissants, c'est difficile. Même quand on porte plainte et tout ça, ça n'aboutit pas.
Igor Strauss, a-t-on une idée du nombre de filles exploitées dans la capitale?
Il est très difficile d'avoir un chiffre précis, mais d'après Jigdoum Moulnang du CECI, le centre de support en santé internationale que vous avez entendu tout à l'heure, elle serait environ 10 000 venant principalement de la province du Logone, dans le sud du pays.
Alors des jeunes filles très pauvres, la plupart d'entre elles ne sont jamais allées à l'école.
Oui, en 2015, le CECI, avec l'aide du Fonds des Nations Unies pour la population, a mené une enquête auprès de ces jeunes filles qui a révélé que la plupart d'entre elles n'avaient jamais entendu parler des maladies sexuellement transmissibles. De même, la plupart ignorent les conséquences des mariages et des grossesses précoces.
Alors, qu'est-ce qui est entrepris pour sortir ces jeunes filles de cette situation?
Eh bien, pas grand-chose. Seule l'ONG CECI tente d'agir, mais faute de moyens et d'appui, les actions se résument à de la sensibilisation. 2500 jeunes filles ont été sensibilisées aux risques liés à la sexualité et 300 d'entre elles sont suivies médicalement par l'association tchadienne pour le bien-être familial.
Igor Strauss, pour finir, vous êtes allé dans le camp de Gaoui, à 15 km de N'Djamena, pour prendre des nouvelles des retournés, ces Tchadiens qui ont fui la guerre en République centrafricaine.
Oui, ils sont arrivés en janvier 2014 dans ce camp de Gaoui. Près de 4 ans après, ils sont encore presque 5000 à vivre dans des conditions qui se détériorent en raison du départ des ONG qui aidaient ces réfugiés. Moussa Bachir est le président du site de Gaoui.
On a 700 tentes ici. Les 700 tentes sont subdivisées en 20 blocs.
Mais on voit, c'est en plein soleil.
C'est en plein soleil, donc il fait très chaud. Le climat n'est pas comme ce qu'on a vécu en République centrafricaine. Là-bas, il fait froid, ici, il fait très chaud. Donc souvent, les personnes âgées ont beaucoup de problèmes ici. Il y a trop de chaleur à l'intérieur, donc il n'y a pas d'arbres ici. Donc vous voyez que c'est difficile.
C'est vrai qu'il n'y a aucun arbre, donc il n'y a pas du tout d'ombre.
Il n'y a pas d'ombre. Donc on a trop de problèmes. Il y a un vent, il y a une tornade qui est venue la semaine surpassée. Ça fait un dégât. Laissé 290 tentes sont tombées par terre.
Ouais, bah, on voit que c'est des vieilles bâches. Elles sont bien servies déjà, mais il y en a beaucoup des trouées.
Voilà, ces tentes-là sont trouées, donc c'est dans un état un peu caduque, si vous voyez.
Comment vous faites pour l'accès à l'eau, l'accès aux toilettes?
Bon, l'accès à l'eau, on a 18 forages dont 6 sont tombés en panne, ne fonctionnent pas. Mais les toilettes, c'est vraiment difficile. Vous voyez là-bas, c'est tout est enlevé, il n'y a pas les bâches, donc c'est en plein air comme ça. Donc le jour, les hommes, les personnes âgées ne peuvent pas aller, donc peut-être les enfants. Donc les gens vont dehors pour faire leurs besoins. Donc même les latrines aussi sont pleines depuis. On a fait des plaidoyers partout pour qu'on puisse curer les latrines. Et jusqu'à là, ils n'ont pas curé. Tout est plein. Avec l'arrivée de la saison pluvieuse, tout est plein.
Quels sont les principaux besoins ici dans le camp?
Les principaux besoins ici, c'est d'abord avoir des activités. Chacun doit avoir le moyen de s'auto-prendre en charge. Deux, c'est la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire. Il n'y a pas un centre de santé. Et ça, c'est le problème crucial ici au niveau du site. vu même le nombre de ces gens, presque 5000 personnes ici au niveau du camp. Il y a des enfants, il y a des femmes qui accouchent souvent ici au niveau du site, parfois la nuit, et au niveau du comité de gestion, nous on n'a rien peut-être pour assister ces gens-là.
Mais si les principaux problèmes de santé, c'est quoi?
Il y a le problème de paludisme, il y a aussi souvent les gens souffrent de l'anémie parce qu'il n'y a pas de sang, je ne sais pas c'est dû à quoi. Même il y a un jeune qui est décédé, ça fait 2 semaines, il souffrait de l'anémie. Il y a des jeunes volontaires qui sont partis à l'hôpital donner leur sang. Ils sont au nombre de 6 et malheureusement ce jeune homme est décédé. Donc le camp a beaucoup de difficultés concernant la santé. Donc c'est ça l'inquiétude. Merci de vous remercier.
Merci beaucoup. Salam alaikum. Ça va bien, madame? Je vous laisse vous présenter.
Elle s'appelle Rukaya.
Et vous avez quel âge?
Elle a 30 ans.
Et combien d'enfants?
Elle a 5 enfants.
Alors, comment ça se passe la vie ici au camp, madame?
La vie ici, c'est très difficile, mais on remercie Dieu.
Et pour une femme comme vous, avec des enfants, quelles sont les principales difficultés?
Ici, les problèmes, ce sont les problèmes de santé. Donc, ils sont malades, les enfants sont malades et ils n'ont pas le moyen pour aller à l'hôpital. Et une fois même, avant d'atteindre même l'hôpital, il y a certains enfants là qui décèdent même en cours de route. Ce cas lui est arrivé, donc elle cherche à amener l'enfant à l'hôpital ici à 4 km et l'enfant est décédé en cours de route.
Il avait quel âge?
8 mois.
De quoi il souffrait?
Donc il souffre de palu et il fait aussi la diarrhée. Donc c'est des jumelles. Donc l'autre est décédé et l'autre est là.
Et comment vous voyez l'avenir, vous, madame, alors?
L'avenir, là, c'est un peu sombre, quoi. Je ne sais pas, c'est incertain.
Mais dans l'absolu, vous aimeriez retourner à Bangui ou vous installer correctement ici au Tchad?
Elle a dit qu'elle souhaite rester ici. Si elle trouve le moyen pour faire des activités, elle reste ici avec les enfants en sécurité.
Merci. Shukran.
Shukran. Allah ajirak, mashallah. Shukran jazak.
Shukran.
Salam
alaikum.
Ça va, monsieur?
Salam. En train de prendre paracétamol.
Paracétamol? Trop malade? Déjà, je vais vous laisser vous présenter.
Wallahi, je suis Mohamed Zain.
Mohamed Zain Baradona.
Vous avez quel âge et vous avez combien d'enfants?
Il a 70 ans.
Et Ali, Sapa Oishirin, Sahir. Sapa Oishirin.
Il a 27 enfants.
27 enfants.
27 enfants. Aouni Talata.
Il a 3 femmes.
Comment ça va la santé, vous, monsieur?
Mardan. Mardan, plus. Mardan, jidden. Ora.
Il est malade, il est très malade.
Qu'est-ce que vous avez?
Mard Habsibol.
Bon, il a un problème de. Comment on appelle ça? Urinaire. Donc, il n'arrive pas à uriner bien. Il a un problème au niveau du poitrine aussi.
Et est-ce que vous avez vu un médecin?
Il a dit l'année passée, il était parti à l'hôpital, mais il n'a pas retrouvé la santé.
Il a dit
il va soigner ça comment? Il n'a pas le moyen, donc il est là par terre, donc il ne fait rien. Même pour manger aussi, c'est difficile avec les enfants. Là, il va se soigner comment?
Oui, monsieur le calanda. Marada.
Si la personne est malade et il n'arrive pas à manger, ça, il va être encore malade beaucoup plus. Et s'il dort par terre, il n'y a pas de matelas, donc il dort seulement sur les nattes. Ça aussi, ça va aggraver encore la maladie. Et s'il ne mange pas, il ne travaille pas, il n'a pas de l'argent, donc cette maladie va seulement augmenter.
Et vos enfants, comment ils vont, vos enfants?
Les légumes là, donc ils font les légumes là seulement comme ça avec de l'huile pour donner aux enfants à manger.
donc sans viande, sans d'autres condiments.
Les
enfants sont en train de souffrir. C'est difficile.
Zaman, autour de Sara.
Il a dit, entre-temps, les Blancs, quand ils parlent ou ils voient des gens qui sont en train de souffrir, ils viennent rapidement secourir. Mais pour l'instant, c'est différent. Les gens viennent, on parle, il
n'y
a rien. Il a dit, entre-temps, au moment où il était jeune, là, si les Blancs parlent, là, ils respectent et ils appliquent. S'il dit que je vais venir, je vais faire ça, ils vont le faire. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent et ils font des promesses. Quand ils parlent, ils parlent définitivement.
Comme
vous avez vu la situation ici, c'est à vous maintenant de transmettre le message là à tout le monde. Que ici, au niveau du camp, les gens sont en train de souffrir.
La santé maternelle et infantile au Tchad, c'était un reportage signé Igor Strauss, réalisé par Didier Bleu. Demain, dans Priorité Santé, à l'occasion d'Octobre Rose, nous parlerons du cancer du sein.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.